magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Dans cette économie mondiale, il y a un indicateur que les économistes, les chefs d'entreprise, les financiers petits ou grands et tous les ministres de l'économie suivent au jour le jour, parfois minute par minute. Cet indicateur, c'est la valeur du dollar. La monnaie américaine est en effet un instrument central, majeur, incontournable, on pourrait multiplier les adjectifs, de la vie économique internationale. Mais, instrument de la puissance américaine, le dollar est de plus en plus un outil aux mains de la justice et de l'administration américaine pour faire prévaloir leur vue. Le dollar n'est plus simplement un moyen de paiement quasiment universel, c'est aussi un moyen de pression. Encore plus avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Conséquence, la tentation de trouver une alternative à ce dollar américain est de plus en plus grande. Échapper au dollar, est-ce souhaitable? Est-ce réaliste? Est-ce faisable? Telles sont les questions dont nous allons débattre dans une émission que j'ai intitulée « Dollar, la menace Trump » avec deux invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Jonathan Marie.
Bonjour.
Jonathan Marie, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 13, où vous êtes aussi directeur adjoint du Centre d'économie de l'Université Paris Nord. Cela a un sigle, c'est le CEPN. Vous êtes un spécialiste des questions monétaires et des régimes de change. Enfin, vous êtes membre du collectif des économistes atterrés, classé à gauche. Et avec vous dans ce studio, Alexis Garati, bonjour.
Bonjour.
Alexis Garati, vous êtes directeur des études économiques chez le réassureur Euler Hermes, qui est depuis quelque temps une filiale du groupe d'assurance allemand Allianz. Et avant d'occuper ce poste, vous avez longtemps travaillé comme économiste dans des banques privées, notamment à Hong Kong, où vous avez vécu près de 10 ans. Au cours de cette émission, nous avons rendez-vous avec nos correspondants, Stéphane Lagarde à Pékin, Daniel Valo à Moscou et Sébastien Farcy à New Delhi. Alors une première question que je vous pose à tous les deux, est-il sérieux aujourd'hui de penser que le dollar puisse perdre sa place de monnaie universelle, Alexis Garati?
Non, je pense pas. Je pense, pour être un peu rapide, que c'est prématuré d'envisager le déclin du dollar en tant que monnaie avec un statut international. Je me souviens de ce genre de débat depuis. J'ai en tête ce genre de débat depuis 10 ou 20 ans et même plus. Donc tout au long de ma carrière, on a tout le temps questionné le statut du dollar en tant que monnaie qui domine en tant que monnaie internationale. Et en fait, ce statut n'a jamais réellement été remis en cause.
Est-ce que ce débat aujourd'hui plus d'acuité?
Je pense que certains éléments viennent éclairer ce débat avec un angle nouveau. Nous aurons probablement l'occasion à travers vos questions d'explorer ces questions-là. Et donc effectivement, le temps qu'on est en train de vivre est très intéressant.
Jonathan Marie, est-ce qu'on peut questionner aujourd'hui la place du dollar comme monnaie universelle? D'ailleurs, est-ce que le qualificatif de monnaie universelle que j'utilise depuis le début de cette émission est justifié?
Oui, certainement. On peut aussi parler de devises clé du système monétaire international, c'est vraiment la monnaie internationale par excellence, le dollar. Et comme Alexis Garati venait de le rappeler, bien sûr, cette place du dollar dans le système monétaire international est questionnée depuis les années 70, depuis que les accords de Bretton Woods ne sont plus en vigueur. Et régulièrement, on se dit que le système monétaire international qui est né de l'abandon des accords de Bretton Woods fonctionnerait mieux s'il reposait moins sur le dollar et s'il était sur différentes monnaies.
Alors, rappelez-nous ce que sont ces accords de Bretton Woods et quel a été le sens ou la portée ou la raison, ou tout cela à la fois, de leur abandon.
L'objectif des pays alliés, quand ils se sont retrouvés à Bretton Woods, aux États-Unis, pendant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était de mettre en place un système monétaire international qui permettrait une stabilité d'échange, stabilité que l'on avait perdu dans l'entre-deux-guerres. Et on estimait alors que la stabilité d'échange était indispensable pour le rebond de l'économie mondiale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et que c'était un facteur important pour la prospérité et pour la paix.
Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va le rappeler, c'est 1944 en tout cas, Bretton Woods.
Bretton Woods, c'est 1944, le système va s'établir à partir de 1947. Et les négociations qui se déroulent alors révèlent en fait la prise de pouvoir dans l'économie mondiale, l'hégémonie américaine. La devise clé du système de Bretton Woods, ça va être le dollar, seule monnaie à l'époque qui a une convertibilité externe en or. Et ce système...
C'est-à-dire que le dollar... Au terme des accords de Bretton Woods, c'est la seule monnaie qui peut se convertir en or avec Cigarati.
À cette époque, c'était le cas. Donc, l'économie américaine était assez puissante, et donc le système financier américain, l'économie américaine était en mesure d'échanger n'importe quelle quantité de dollars contre n'importe quelle quantité d'or. Et donc, le problème, ça a été l'affaiblissement progressif de cette capacité à échanger n'importe quelle quantité d'or contre le dollar qui a miné dans les années 70 à l'interruption quoi, des accords de Bretton Woods.
Voilà, tout le système était basé sur la capacité des autorités américaines à maintenir la convertibilité du dollar en or, et ensuite toutes les monnaies avaient un taux de change fixe vis-à-vis du dollar. En 71, Nixon annonce qu'il ne tient plus, le président américain annonce qu'il ne tient plus cet engagement de convertibilité externe du dollar en or. Et on arrive dans le système monétaire international actuel, où il n'y a plus d'étalons des monnaies entre elles, il n'y a plus d'accords internationaux régissant les taux de change.
Donc les taux de change sont flottants.
Les taux de change sont flottants. Et pourtant, le dollar est resté la monnaie clé du système. Et dans le contexte actuel, où on a tout à la fois un changement de la politique monétaire aux États-Unis, une attitude dans la diplomatie américaine qui évolue, on réalise à nouveau, on se rend compte à nouveau, mais comme on a eu différents épisodes depuis les années 70, que le système monétaire international, où parfois on parle d'absence de système, puisqu'il est plus organisé par aucun accord international, ce système est très instable.
D'autant plus instable avec Donald Trump, oui. Avec Cigarati.
Oui, je pense que ce sont les points que j'évoquais au début de l'interview sur les angles nouveaux qui permettent d'éclairer cette question de la fonction du dollar en tant que monnaie internationale. C'est très intéressant de faire le parallèle entre Bretton Woods 1944 et la situation d'aujourd'hui. La différence fondamentale que je vois, c'est qu'à cette époque, les États-Unis étaient un offreur essentiel de biens publics globaux. C'est-à-dire que cette stabilité de la monnaie à laquelle les États-Unis ont contribué avait vocation à offrir ce type de bien public global, c'est-à-dire cette stabilité. Il y avait une mission américaine en termes de reconstruction et d'établissement de cette stabilité.
Et de la paix.
Et de la paix. Cette fonction, maintenant, a radicalement changé. Il y a une espèce de retour, de retranchement avec l'America First Policy, avec la politique qui donne la priorité aux enjeux domestiques uniquement. Et donc, il y a un abandon progressif de cette mission d'offreurs de biens publics globaux. On le voit à tous les domaines et on le voit au niveau de la question des monnaies.
Alors, quel impact sur le système monétaire et sur la place du dollar ?
L'impact, c'est que, comme on va le voir, il y a une multiplicité d'initiatives au niveau international, et notamment du côté des pays émergents, pour essayer de remplacer le dollar en tant que monnaie internationale.
Alors, l'Iran est au centre, Jonathan Harry, des préoccupations américaines. Le président Trump a rompu l'accord sur le nucléaire iranien. Il a réimposé des sanctions et il a interdit à qui que ce soit de commercer avec Téhéran. Est-ce que l'arme dollar joue un rôle dans cette politique ?
Bien sûr, puisque les autorités américaines appuient leur diplomatie avec leur capacité juridique à empêcher en fait toute transaction commerciale avec l'Iran dès lors que l'on utilise le dollar. Donc toute entreprise, même si elle n'est pas américaine, qui enfreindrait les mesures diplomatiques prises vis-à-vis de l'Iran, risque des sanctions décidées par les autorités américaines.
Parce qu'ils utilisent le dollar.
Parce qu'ils utilisent le dollar.
Mais est-ce que cette attitude pourrait être copiée, par exemple, par les Européens qui reprocheraient à une entreprise ou à un État de commercer avec un pays tiers sous prétexte qu'ils utilisent l'euro ? Est-ce que cette politique est exclusive des États-Unis, Alexis Garanti ?
Je dirais que c'est une possibilité théorique qui correspondrait en fait à une sorte de détérioration des relations commerciales au niveau international. Ça serait une configuration de guerre commercial généralisé. Je ne pense pas qu'on en arrivera à ce genre d'extrémité.
De la part des Européens.
De la part des Européens, parce qu'ils sont des avocats du multilatéralisme. Et donc, rentrer dans cette sorte de guerre commerciale se viendrait à l'encontre de leur philosophie.
Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que les États-Unis de Donald Trump utilisent le dollar comme une arme pure et simple.
Oui, tout à fait. Donc, comme ils utilisent d'autres types d'armes. Et encore une fois, ils ont une vision essentiellement bilatérale. La stratégie du président américain, c'est de rentrer dans des relations d'ordre de niveau bilatéral pour exercer le pouvoir que représente leur poids économique. Tandis que lorsque vous négociez au sein d'institutions multilatérales, vous diluez cette force liée à votre poids économique. Et donc, les États-Unis n'hésiteront pas, dans les années qui viennent, à utiliser l'arme de la monnaie comme d'autres types d'armes pour atteindre leurs objectifs de politique économique et les enjeux aussi géostratégiques.
Alors tout le monde n'obéit pas le petit doigt sur la couture du pantalon au visé de la Maison Blanche. À New Delhi, en Inde, on essaie de contourner l'obstacle dollar pour pouvoir continuer à acheter du pétrole iranien. Écoutez les explications de Sébastien Farsi à New Delhi.
L'Iran est le troisième fournisseur de pétrole de l'Inde et New Delhi n'a pas l'intention d'abandonner son voisin si facilement. Deux raffineries publiques viennent ainsi de commander 9 millions de barils de brut iranien. Le paiement passerait par deux banques, également contrôlées par l'État indien, qui ne réalisent pas de transactions avec les États-Unis et peuvent donc échapper aux sanctions américaines. Les achats devraient être réalisés en roupies, que Téhéran utiliserait ensuite pour acheter du riz ou des médicaments indiens. New Delhi avait déjà utilisé un système similaire lors des précédentes sanctions américaines contre l'Iran. Les Indiens passaient au début par des banques turques, puis les Iraniens avaient accepté d'être partiellement payés en roupies. Cette fois, toute la somme pourrait être versé en devises indiennes, ce qui permettra à New Delhi de renforcer sa monnaie et de freiner la saignée des comptes publics. La roupie a en effet perdu 10% de sa valeur par rapport au dollar depuis un an, et comme l'Inde importe 80% de son pétrole, généralement payé en billets verts, le prix de l'essence a explosé ces derniers mois et entraîné une révolte populaire que le gouvernement a dû apaiser à coups de subventions. Cependant, les opérateurs privés, eux, comme le géant des hydrocarbures Reliance, ne peuvent se permettre de prendre de tels risques et ont mis fin à leurs importations de brut iranien.
Sébastien Farsi, le correspondant de RFI à New Delhi. Alexis Garati, la roupie, monnaie internationale ?
Je serais plutôt opposé à ce genre de jugement. La roupie se caractérise avant tout par son instabilité. Donc la stabilité et la confiance que les investisseurs internationaux peuvent placer dans une monnaie est fondamentale pour avoir le statut de monnaie internationale. Donc pour moi, le roupie n'est pas du tout une monnaie internationale, assumant l'ensemble des fonctions d'une monnaie internationale.
Qu'est-ce que c'est une monnaie internationale ?
Une monnaie internationale, généralement, on divise en trois fonctions. La monnaie avec un statut international, donc elle exerce la fonction de monnaie de réserve. Elle sert aussi à effectuer les transactions.
C'est-à-dire une monnaie qu'on a dans les coffres des banques centrales.
Oui, ce sont avant tout des titres de dette publique qui sont détenus par les banques centrales du monde. Et donc, de ce point de vue, il y a une domination écrasante du dollar. Après, il y a la fonction de paiement liée aux transactions commerciales. Et puis, la troisième fonction a trait à la dénomination, à la facturation, à comment on libelle les prix au niveau international. Et ça, ça a une relation avec le pétrole. Et typiquement, le pétrole est un bien qui s'échange en dollars. Et donc, c'est produit dans des pays qui, en dehors des États-Unis essentiellement, et c'est libellé en dehors. Donc, la fonction de dénomination est aussi très, très importante.
L'Iran, l'Inde, la roupie, c'est un système clos, Jonathan Marie.
Oui, exactement. On voit bien que suite aux sanctions américaines, on cherche à contourner les contraintes qui pèsent sur le dollar qu'on évoquait tout à l'heure, la menace de sanctions, en utilisant la roupie. Et comme ça vient d'être dit ici, on est bien dans une relation bilatérale. On comprend bien que les Iraniens vont exporter le pétrole vers l'Inde, récupérer les roupies, pour ensuite importer auprès de l'Inde des biens produits par l'économie indienne.
Jonathan Marie, depuis quand les États-Unis utilisent-ils leur monnaie pour exercer des pressions économiques ou politiques sur des pays tiers ou des entreprises tierces?
Ça n'est pas nouveau, mais on a certainement un changement de nature avec l'administration Trump. On n'hésite pas à menacer, à utiliser cette arme de façon beaucoup plus véhémente, à exhorter les partenaires du commerce mondial à respecter la décision américaine. Ça n'est pas réellement nouveau. On sait que des banques françaises, d'autres banques, des banques européennes, avaient déjà été sanctionnées par le passé avant Trump pour non-respect des embargos sur certaines économies. Bien sûr,
on se souvient de l'exemple de la BNP Paribas, près de 9 milliards de dollars d'amende pour avoir commercé avec le Soudan et l'Iran.
C'est ça, c'était en 2015, mais il y a eu d'autres cas avec des amendes plus réduites. Il me semble que ING avait été sanctionné au début des années 2010, Clearstream aussi, donc des sanctions pour non-respect des mesures d'embargo décidées par les autorités politiques américaines. Mais là, on agite beaucoup plus fortement cette menace. Et l'exemple iranien est très caractéristique.
Est-ce que c'est une menace pour les pays émergents, les cigarettes, cette arme dollar ?
Oui, c'est une menace directe. Cette année, l'instabilité que l'on a pu observer au niveau des pays émergents, au niveau de leur monnaie, une partie de ces sources de perturbation vient des sanctions qui ont été imposées par les États-Unis. Et donc, il y a eu des attaques sur la monnaie russe, il y a eu des attaques sur la monnaie turque, il y a eu des attaques sur la monnaie argentine. Dans le cas turc et dans le cas russe, il y avait une dimension qui était liée aux sanctions qu'envisageaient les États-Unis sur ces pays-là. Et donc l'effet sanctions américaines joue directement sur la stabilité des monnaies des pays émergents. Donc c'est un outil effectivement extrêmement puissant.
Comment expliquer que le dollar, qui circule partout, qui est dans les mains de beaucoup de banques centrales, dans les réserves de beaucoup de banques, de beaucoup d'entreprises, soit perméable à cette politique américaine? Qu'est-ce qui fait le lien entre la détention de cette monnaie et la possibilité des sanctions?
Je dirais que c'est avant tout le rôle du système bancaire qui est très important. Et donc, généralement, du côté des pays émergents, il y a une sorte de dépendance du système bancaire de ces pays émergents vis-à-vis des liquidités dollars. Donc, ces banques des pays émergents sont engagées dans des relations commerciales et financières avec d'autres banques, avec des acteurs économiques, et donc ont une configuration qui montre qu'ils ont une dépendance vis-à-vis de la liquidité dollar. Et donc, comme les États-Unis et la Fed en particulier,
la Réserve fédérale, la Banque centrale,
contrôlent l'approvisionnement de liquidités au niveau international, il y a implicitement un pouvoir très fort qui s'exerce en termes d'accès plus ou moins favorable à ces liquidités dollars au niveau international.
C'est-à-dire, Jonathan Marie, que la Banque centrale américaine imprime des billets, c'est la seule à pouvoir imprimer le dollar et donc à alimenter ou pas le marché mondial.
Oui, le dollar est la monnaie la plus utilisée, largement la plus utilisée dans l'économie mondiale. On a besoin de dollars et la seule entité habilitée à émettre les dollars, c'est bien sûr la Banque Centrale Américaine, la Réserve Fédérale Américaine. Sur ce qu'il venait d'être dit, bien sûr, les événements politiques rajoutent l'instabilité et ils sont importants pour comprendre ce qui s'est passé en Turquie au début de l'automne ou à la fin de l'été, en Russie, en Argentine et dans d'autres pays émergents. Mais cette instabilité politique qui provoque cette instabilité d'échange s'ajoute à une instabilité inhérente du système monétaire international. Il y a une conjonction actuellement d'événements, cette politique américaine, et aussi un changement de la politique monétaire américaine qui avait été très accommodante depuis la crise financière de 2008. Les taux d'intérêt remontent aux États-Unis. Mécaniquement, les capitaux tendent à revenir plutôt vers l'économie américaine et à exiger des rendements financiers plus importants dans les économies émergentes. Donc on a cette conjonction de facteurs qui rappelle combien le système monétaire international actuel est instable.
Alors en Asie, l'Inde n'est pas le seul pays à vouloir contourner le dollar. La Chine l'envisage aussi sérieusement. Pourtant, le seuil symbolique des 7 yuan pour un dollar pourrait bientôt être atteint, ce qui n'était pas arrivé depuis la crise financière de 2008. Un billet vert renforcé par la croissance américaine, alors que Pékin doit faire face à un certain ralentissement économique. Le dollar contesté, mais encore loin d'être remplacé. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphane Lagarde, le correspondant de RFI à Pékin.
Ce n'est pas le magic number, comme disent les anglo-saxons, mais au contraire un chiffre qui fait peur. Un dollar pour 7 yuan, le bras de fer commercial sino-américain n'a fait que renforcer les échanges en dollars. Les investisseurs sont inquiets, personne ne sait aujourd'hui jusqu'où ira cette bataille tarifaire. Parmi les mesures prises par Pékin ces dernières semaines, pour tenter de stabiliser sa monnaie, les premiers bons libellés en yuan à la bourse de Hong Kong, de manière à renforcer le contrôle des autorités chinoises sur le marché offshore. Une manière aussi d'internationaliser la monnaie chinoise, comme l'évoquait le patron de la Banque de Chine. Chine, Zhou Xiaoxuan, lors du congrès du peuple à Pékin en mars dernier.
Il existe déjà des mesures qui contribuent à l'internationalisation du yuan. Des mesures qui permettent d'utiliser la monnaie chinoise dans les échanges et les investissements internationaux. Et puis, le yuan fait désormais partie du panier de monnaie des droits de tirage spéciaux. Nous ne pouvons forcer personne, mais si certains veulent utiliser le yuan, alors les décisions sont prises en fonction des considérations de chacun des pays.
Un yuan comme monnaie de substitution face à un dollar dont la contestation a augmenté depuis la mise en place des sanctions américaines, mais pour l'instant pas question de renverser la suprématie du billet vert dans les échanges, comme nous l'explique au téléphone depuis Shanghai Yi Xianrong, responsable du bureau des politiques monétaires à l'Institut d'économie au sein de l'Académie des sciences sociales chinoises.
À court terme, le yuan ne menace pas la suprématie du dollar. Actuellement, plus de 60% des échanges internationaux se font en dollars, comme plus de 80% des réserves en devises dans les banques centrales. La monnaie chinoise attire, c'est vrai, l'attention des pays africains notamment, pour faciliter les échanges commerciaux entre la Chine et le continent. Mais on est encore loin du compte. La part de l'économie africaine dans l'économie mondiale reste très faible et cela ne facilite pas l'internationalisation du yuan.
La Chine, confrontée à la guerre commerciale et à des vents contraires, soutient à la croissance face à la stabilité du marché d'échange. La monnaie américaine pourrait encore s'apprécier face au yuan dans les prochaines semaines.
Un reportage signé Stéphane Lagarde dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons de ceux qui veulent ou tentent de tourner le dos au dollar, avec deux invités, Jonathan Marie, maître de conférence en économie à l'Université Paris 13, et Alexis Garatti, directeur des études économiques chez le réassureur Euler Hermès. Où en est la monnaie chinoise dans sa conquête du monde? Pas très loin, Alexis Garatti.
Effectivement. Ce qu'on peut constater, c'est l'absence de progrès du point de vue de l'internationalisation du renminbi. Il y a des velléités du côté du pouvoir, du côté du gouvernement chinois pour internationaliser la monnaie. Et ça dure depuis presque 10 ans. Mais du point de vue des transactions, du point de vue de la dénomination des biens internationaux et du point de vue de la fonction de réserve internationale, il n'y a pas de progrès significatif du renminbi. Le seul progrès significatif que j'observerai de ce point de vue se situe au niveau régional. Le poids de la PBOC, la banque centrale chinoise, est de plus en plus important en termes d'influence sur la politique monétaire des autres pays asiatiques. Ce que l'on observe, ce sont des co-mouvements, une corrélation de plus en plus forte entre les monnaies de cette région Asie et la monnaie chinoise. Ça veut dire que les pays asiatiques accordent un poids très important aux décisions de la banque centrale chinoise. Et ça montre une influence quand même grandissante au sein de la zone région Asie.
Jonathan Marie, l'influence du yuan, il passera d'abord par l'Asie ou par l'Afrique, comme semblait l'évoquer un des interlocuteurs de Stéphane Lagarde dans ce reportage?
Très certainement, il y a une velléité de développer l'utilisation du renminbi en Asie. Ça vient d'être évoqué dans la zone ASEAN. Le taux de change du renminbi, effectivement, tente à se synchroniser avec les autres monnaies. Et on le voit aussi, peut-être en lien avec l'initiative de développement de ces infrastructures de transport avec la nouvelle route de la soie, où tout autour de ces zones d'influence, le renminbi tente à circuler. Le développement des banques qui offre du crédit offshore se fait autour de ces programmes. Ça ne fait pas pour autant du renminbi une monnaie internationale qui viendrait concurrencer le dollar. C'est d'ailleurs certainement pas l'objectif à court terme des autorités chinoises, parce qu'elles sont bien conscientes que si le yuan devenait une monnaie internationale, il faudrait un développement très important des marchés financiers chinois et une ouverture de ces marchés financiers hors les autorités économiques chinoises souhaitent conserver des contrôles sur les flux de capitaux depuis et vers la Chine pour conserver aussi une certaine autonomie dans la politique monétaire. Et ces objectifs seraient contradictoires avec l'idée de faire du yuan une véritable monnaie internationale.
C'est-à-dire qu'il devrait s'exposer plus aux forces du marché monétaire, des échanges internationaux de monnaie.
Tout à fait. Et il faudrait qu'on évoquait les titres de dette de chinois. Il faudrait que ces titres de dette deviennent un actif offert sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et c'est certainement pas l'objectif.
Que vous ou moi ou n'importe qui pourrait acheter ou vendre.
Oui, n'importe quel acteur sur important sur les marchés d'échange, tout à fait, pour que ça soit un actif de sûr comme le sont aujourd'hui les bons du Trésor américain.
Pourtant, par exemple, les autorités chinoises viennent d'ouvrir un marché du pétrole à Shanghai qui est coté en renminbi et pas en dollars, comme ça se fait partout ailleurs, pratiquement, Alexis Garati.
C'est assez cohérent, puisque la Chine est devenue le premier importateur au monde de pétrole en 2017. Donc ça fait sens. Ça. Donc le fait de libeller en fait des produits dérivés en renminbi fait sens du point de vue du poids économique de la Chine sur le marché pétrole. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Jonathan, c'est ces contraintes en fait qui sont liées au statut de monnaie internationale. On peut en effet remonter à 2015-2016 et à ce moment-là, ils étaient vraiment très très agressifs du point de vue de l'internationalisation de leur monnaie. Et à ce moment-là, en fait, certains doutes sur la solidité de l'économie chinoise sont réapparus et l'ouverture peut-être trop brusque du marché des capitaux à ce moment-là, qui était cohérente avec cette promotion de l'internationalisation du renminbi, cette ouverture trop brusque en fait a amené des doutes sur la stabilité du système financier chinois et donc a mis en danger l'ensemble du système financier chinois. Et donc il a fallu revenir en arrière, reprendre le contrôle du marché des capitaux et être un peu moins ambitieux dans ce développement du statut international du renminbi.
Ce que vous dites me fait penser à la crise de 2008 où les banques américaines, le système monétaire et financier américain a été très sérieusement ébranlé. Ça n'a pas remis en cause la domination du dollar.
Non, tout à fait. Ouais. C'est là un peu ce que l'on pourrait appeler comme l'avait fait le président français Valéry Giscard d'Estaing en 1965, déjà le privilège exorbitant du dollar. C'est-à-dire que malgré certaines politiques, malgré certaines orientations de l'économie américaine, qui montrent que des fois cette économie est mal orientée, se caractérise par des déséquilibres vraiment très importants, malgré cela, la stabilité de cette monnaie n'est pas remise en cause. Parce qu'il y a un besoin essentiel de liquidité au niveau international. Et c'est le dollar qui joue ce rôle.
Jonathan Marie ?
On a certainement raté une occasion, après la crise financière,
de se débarrasser du dollar ?
Peut-être pas se débarrasser du dollar, mais en tout cas d'avoir un système monétaire international qui repose plus sur des principes de multilatéralisme, d'objectifs communs, de développement d'un bien commun pour la stabilité économique mondiale, pour le développement, pour le financement de la transition écologique. On a beaucoup évoqué dans les discours politiques suite à la crise financière la nécessité de refaire un nouveau Bretton Woods. Et à l'époque, en fait, quand on évoquait le système de Bretton Woods, on n'évoquait que les difficultés qu'on avait eues sur les marchés financiers, sur le contrôle des banques. Il manque tout le pilier monétaire, monnaie internationale. Tant que dans le système monétaire international, la monnaie internationale par excellence est une monnaie nationale, on aura cette difficulté à promouvoir un système plus stable et qui permette le financement des activités économiques de manière pérenne.
On sait que l'économie américaine tourne à plein régime en ce moment, mais que les réformes fiscales de Donald Trump contribuent à accroître l'endettement du pays. Est-ce que ça n'est pas une menace à terme pour ce système monétaire international, pour cette prévalence du dollar, Alexis Garati ?
Si, tout à fait. Ça fait partie de ces éléments nouveaux qui apportent un éclairage nouveau sur cette question du dollar. Et clairement, la dette américaine ne se trouve pas sur un sentier de soutenabilité. C'est-à-dire que, je ne sais pas quand, dans un an, deux ans ou trois ans, il va y avoir un certain nombre de remises en cause de cette stabilité, en fait, de la dette américaine. Si dans les deux ou trois ans, les autorités américaines ne révisent pas fondamentalement l'orientation de leur politique budgétaire, alors on pourrait avoir l'émergence de doutes très important sur la stabilité de cette dette. Et donc, je pense que la stabilité du dollar pourrait être mise à mal dans ces circonstances-là.
On va écouter un peu de musique dans ce monde de brut monétaire. Avishai Cohen, un titre Blinded, aveuglé.
About it, must be wrong to have thought that it was true. When I think about it, now I know it was me, it wasn't you.
Blinded de Avishai Cohen, qui est donc invité lui aussi dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Comment se fait-il que le produit dont on parle le plus pour le payer dans une autre monnaie que le dollar, puisqu'on a vu que c'est très fréquent, ce soit le pétrole? Est-ce que le pétrole est une autre sorte de monnaie finalement, Alexis Garati?
Oui, on peut un peu estimer ça, que effectivement, étant donné que c'est un bien qui est demandé au niveau global et qui est très important en termes de facteurs de production, donc il peut jouer le rôle de moyen d'échange dans les initiatives que vous évoquiez sur comment éviter les sanctions américaines. Il y a eu des initiatives au niveau européen, chinois et puis aussi russe pour la mise en place d'une plateforme, d'un véhicule d'investissement spécial qui visait à organiser un système de troc, donc de pétrole exporté par l'Iran contre des biens à travers l'utilisation d'une monnaie électronique. Et donc, si on revient à cette notion de troc, effectivement, comme vous le dites, le pétrole pourrait jouer le rôle de monnaie. Cependant, il faut aussi souligner le fait qu'on est dans une période de transition énergétique, et donc progressivement, le poids de ce pétrole en termes de référent commun est probablement amené à décliner au cours des années qui viennent.
Jonathan Marie, le pétrole, c'est une monnaie qui décroît ?
Le système économique futur ne pourra plus mécaniquement être autant basé sur l'utilisation du pétrole que par le passé. Or, après la Seconde Guerre mondiale, véritablement, on a eu cet essor concomitant du dollar qui devient de plus en plus important dans l'économie mondiale et du pétrole. Et les deux sont liés. Aujourd'hui, on est dans cette incertitude. Que va-t-il advenir du dollar et du pétrole? Donc on cherche des alternatives pour éventuellement échanger le pétrole dont on est encore extrêmement dépendant en se passant du dollar, mais ça ne signifie pas que le pétrole va devenir la référence de la monnaie internationale à l'avenir.
Alors, Jonathan Marie, Alexis Garati évoquait une plateforme d'échange, des conversations finalement entre multipartites pour définir des nouvelles modalités d'échange. Est-ce qu'il y a des conversations au niveau international, même informel en ce moment, pour entre les grands argentiers, entre les ministres des économies? On sait qu'il y a le G20 la semaine prochaine à Buenos Aires. Est-ce que c'est des conversations qu'on a pour savoir comment échapper au dollar, à la domination du dollar? Est-ce qu'on en parle?
On en parle aussi en France. Il y a eu un rapport parlementaire qui, je crois, a été publié au Sénat en septembre, qui évoque la possibilité de d'échapper aux possibles sanctions américaines sur l'Iran. Et donc on évoque ces plateformes dédiées pour échanger avec l'Iran. On évoque aussi la possibilité de mettre en place toute une infrastructure technique, bancaire, financière, pour enregistrer les transactions, comme on le fait avec le système SWIFT pour le dollar.
Alors, expliquez-nous ce qu'est le système SWIFT, parce que c'est important finalement dans cette architecture de la domination du dollar.
C'est les modalités techniques d'enregistrement de toutes les transactions qui vont être effectuées entre banques pour échanger les dollars, pour enregistrer toutes les transactions.
C'est-à-dire que dès que quelqu'un utilise le dollar pour acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussures ou un tanker de pétrole, c'est enregistré dans un système SWIFT qui est basé où ? Qui est contrôlé par qui ?
Le système SWIFT, c'est une fédération d'acteurs bancaires. Au départ, c'est développé en Belgique, je crois, pour enregistrer toutes les transactions en unité de compte internationale en dollars. Mais la compensation des transactions entre celui qui paye et celui qui reçoit, tout est surveillé sur le territoire américain dans les chambres de compensation qui sont situées aux États-Unis. Et c'est là que les États-Unis mettent en avant les possibles sanctions légales.
Alexis Garati, est-ce qu'on peut s'attarder un instant sur ce système SWIFT et ces chambres de compensation qui sont situées aux États-Unis? Donc physiquement, les échanges de dollars se font aux États-Unis par l'intermédiaire de ces chambres de compensation. Comment est-ce que ça marche précisément, ce système?
Personnellement, je ne connais pas exactement le fonctionnement technique de cette plateforme. J'en connais l'importance. Je relèverai ici, à ce niveau-là, l'aspect technique. Et puis l'aspect pouvoir, donc la centralisation des opérations, le fait qu'elles soient réellement effectuées au niveau des États-Unis montre ce statut ultra dominant du dollar et montre donc une sorte de pression implicite aussi des autorités américaines en tant que contrôle du système lié aux flux financiers. Le second aspect que je voudrais souligner, c'est l'aspect technique, et c'est peut-être à ce niveau-là que le danger le plus important se situe pour le dollar. On voit que dans ces initiatives pour essayer de éviter les sanctions qui pèsent en rapport avec les exportations iraniennes, il y a une sorte de créativité, d'innovation qui est quand même assez impressionnante. Et sans que ça me laisse penser qu'avec l'émergence des monnaies électroniques, on pourrait très facilement trouver des solutions alternatives au financement uniquement en dollars.
Jonathan, Marie ?
Oui, je partage ce point de vue. Néanmoins, il y a un aspect très important au-delà de l'aspect technique, il y a cette confiance vis-à-vis du dollar. Et on évoquait tout à l'heure le possible dérapage de la dette américaine. La dette américaine a dérapé à d'autres périodes dans l'histoire. Les États-Unis sont structurellement en déficit courant, donc les investisseurs internationaux vont investir aux États-Unis, recherchent des actifs en dollars. Il y a toujours cette confiance dans le dollar. Et on cherche à réaliser des échanges en dollars. On va dans n'importe quel pays du monde, la monnaie qui fait rêver, c'est le dollar. Donc il y a quand même, au-delà de ces aspects techniques et la possibilité de concurrencer le dollar, on voit bien comment on pourrait faire. Malgré tout, il y a une inertie extrêmement forte du dollar.
Alors, on a vu que la Chine mettait en quelque sorte sa monnaie en ordre de bataille pour les décennies à venir. Peut-être peut-elle compter sur le soutien de Moscou pour lutter, entre guillemets, contre le dollar. En tout cas, la Russie, dont on ne peut pas dire que l'économie soit florissante, joue aussi contre les billets verts. Nous en parlons avec le correspondant permanent de RFI à Moscou, Daniel Valo. Bonjour Daniel.
Bonjour Jean-Pierre.
Daniel, se détacher du dollar, la Russie en rêve et en parle beaucoup. La dédollarisation, c'est même un sujet qui occupe de plus en plus les esprits au Kremlin. Mais est-ce que Moscou a vraiment les moyens de s'affranchir du billet vert ?
Oui, la Russie de Vladimir Poutine a de bonnes raisons de vouloir s'affranchir du billet vert avec la menace des nouvelles sanctions que les États-Unis pourraient prendre à son encontre, des sanctions financières contre les banques russes, mais des sanctions qui pourraient également viser les exportations russes libellées en dollars. Moscou veut donc s'émanciper du billet vert et a déjà commencé d'ailleurs à le faire par le biais de la Banque centrale russe. C'est ce que nous a expliqué Natalia Orlova, chef économiste auprès d'Alpha Bank, l'une des principales banques privées de Russie.
La Banque centrale russe a changé la structure de ses réserves. Donc, si je pense qu'il y a quelques années, le montant des réserves d'obligations des États-Unis, ça allait jusqu'à 100 milliards de dollars. En ce moment, je pense qu'il reste environ 15 ou 20 milliards. En plus, en ce moment, donc les propositions qu'on discute en Russie sont les propositions qui ont le but de diminuer le rôle du dollar dans les transactions commerciales russes, donc notamment entre les partenaires internationaux.
Moscou veut donc favoriser le paiement des transactions internationales dans d'autres monnaies que le dollar. Problème, s'affranchir du billet vert pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. C'est du moins le sentiment de Natalia Orlova.
Les partenaires commerciaux de la Russie, c'est l'Union européenne et la Chine. Et les deux, ils ont leurs propres intérêts. Donc, notamment, les pays européens, effectivement, ont l'intérêt d'utiliser l'euro et non pas le rouble. La Chine a son projet d'augmenter le rôle de son devise dans l'économie mondiale. Et en plus, on a le problème que le taux de change du rouble est très volatile, il n'est pas stable. Donc, c'est un peu compliqué du point de vue économique d'éliminer les contrats d'exportation ou d'importation dans une devise qui n'est pas très stable.
Daniel, voilà un programme compliqué pour le Kremlin et qui va devoir en plus surmonter les réticences de ses propres concitoyens.
Absolument, à commencer par les entrepreneurs russes eux-mêmes, des entrepreneurs qui apprécient le dollar pour sa liquidité et pour son rendement. La dépendance au dollar est d'autant plus forte que l'économie russe, c'est d'abord avant tout le pétrole, le gaz, les matières premières, donc des marchés qui sont libellés en dollars, et cela, Moscou aura beaucoup de mal à le faire changer. Et puis, il y a les épargnants russes qui apprécient eux aussi le billet vert. L'épargne russe en dollars dépasse les 80 milliards et il sera difficile de convaincre ces épargnants d'abandonner la sécurité du dollar pour un rouble qui a beaucoup perdu de sa valeur ces dernières années et surtout qui a laissé un très mauvais souvenir aux Russes, celui de l'effondrement monétaire des années 90.
C'était Daniel Valois Moscou dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons de ceux qui veulent tourner le dos au dollar avec deux invités, Alexis Garati, directeur des études économiques chez le réassureur Euler Hermès, et Jonathan Marie, maître de conférence en économie à l'université Paris 13. Ce que tente de faire Poutine, c'est la pure gesticulation, Jonathan Marie?
En tout cas, on voit bien que cette tentative de se passer du dollar est difficile pour atteindre ses objectifs et surtout c'est en partie inefficace. Ce qui est évoqué au cours de l'été, effectivement les réserves de la Banque centrale détenues en dollars ont diminué, mais pour acheter de l'or. Donc on revient à, Keynes disait, cette relique barbare d'actifs
Keynes, de réserve. John Maynard Keynes, le grand économiste des années 20-30.
Voilà, tout à fait. Donc le réflexe, c'est de revenir sur un autre actif de réserve, l'or. On voit bien le côté un petit peu absurde de ce type de politique. On se passe d'un côté du dollar comme actif de réserve, mais il faut trouver un substitut. Et il faut, pour la Russie, conserver des réserves inutilisées pour autre chose, simplement pour défendre, pouvoir défendre le taux de change du rouble, dont on a vu qu'il était très instable.
Mais si je ne m'abuse, la Russie produit de l'or, donc c'est peut-être une bonne idée.
Les stocks que la Russie a achetés dépassent la production d'or sur le territoire russe.
Alexis Garati.
Oui, c'est une question très intéressante et j'aime votre terme gesticulation. Je pense qu'effectivement, il y a une dose de populisme derrière ces initiatives. Et dans le domaine de la monnaie, on dit souvent que la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. Et donc, s'il y a un processus de dollarisation qui est visible au niveau réel, basique de l'économie russe, c'est parce qu'il y a une faiblesse fondamentale de l'économie russe qui se caractérise par un certain nombre de déséquilibres et d'instabilité dans la définition des objectifs économiques. Et donc si les ménages, les banques sont enclins à avoir du dollar, c'est parce que avant tout il y a une instabilité du rouble. Et donc c'est très difficile à gérer pour chacun des acteurs économiques. Et donc et la seconde contradiction, c'est effectivement les exportations notamment d'énergie qui s'opère sur un marché au sein duquel l'ensemble des biens sont libellés en dollars.
Alors il y a quand même un acteur majeur sur la collaboration duquel Poutine pourrait compter, c'est l'Europe, l'Union européenne et les pays de la zone euro. Écoutez ce que déclarait le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le 12 septembre dernier, lors de son discours sur l'état de l'Union.
L'euro est devenu la deuxième monnaie mondiale après le dollar. 60 pays lient d'une manière ou d'une autre, leur propre monnaie à l'euro. Mais nous devons faire plus pour permettre à notre monnaie unique de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Des événements récents ont mis en lumière la nécessité d'approfondir notre union économique et monétaire et de construire des marchés de capitaux liquides et profonds. Nous devons et nous pouvons aller plus loin. Il est aberrant que l'Europe règle 80% de sa facture d'importation d'énergie qui s'élève à 300 milliards d'euros par an en dollars américains, alors que 2% seulement de nos importations d'énergie nous proviennent des États-Unis. Il est aberrant, ridicule, que les compagnies européennes achètent des avions européens en dollars et non pas en euros. Il faut changer tout cela.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Jonathan Marie, il a raison, Jean-Claude Juncker, tout ça est aberrant, ridicule.
Oui, on peut dire que l'euro n'a pas atteint son objectif du point de vue de la possibilité de concurrencer le dollar comme monnaie internationale. C'était quelque chose qui était promis par les promoteurs de la monnaie unique à la fin des années 90. Par la monnaie unique, l'Europe allait se doter d'une monnaie véritablement internationale. Or, quand on compare les réserves de change qui étaient détenues par les banques centrales du monde des monnaies qui allaient rejoindre, qui allaient intégrer l'euro, et quand on regarde aujourd'hui, le chiffre est à peu près le même. 20% des réserves de change sont constituées par l'euro aujourd'hui. C'était au moment de la naissance de l'euro la même chose. Donc ça n'a pas évolué. Et Jean-Claude Juncker dit qu'il faut progresser de ce point de vue-là et qu'il faut approfondir l'union des marchés de capitaux en Europe, qui est le grand projet de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker est en fin de mandat. En tant que président de la Commission européenne, il cherche il y a peut-être un petit peu de méthode quoi, en disant l'Europe est très active, l'Europe est capable de faire beaucoup de choses. Le problème de la zone euro et pourquoi la monnaie unique ne peut pas concurrencer parfaitement le dollar, c'est qu'il y a des motifs de défiance vis-à-vis de l'euro. Dans la zone euro, on est incapable d'assurer la stabilité du prix et des taux d'intérêt exigés sur les dettes publiques. On n'a pas de titres de dette publique des pays de la zone euro, ce qui fait défaut quand on compare avec les États-Unis. Donc simplement, l'approfondissement du marché des capitaux de la Commission européenne ne permettra pas, de toute façon, à l'euro de devenir une monnaie internationale au même titre que le dollar.
Qu'est-ce qui s'oppose, Alexis Garati, au fait que l'Europe, la zone euro, n'est pas des bons du trésor en euros ?
C'est l'absence de définition, d'une vision commune de la politique économique au niveau européen. Et s'il y a une faiblesse fondamentale de l'euro, c'est à ce niveau-là que je la situerai, dans l'absence d'une vision commune de la politique économique. Et donc, on parle d'absence de bonds européens, mais en fait, cette absence reflète l'absence de définition de cette politique économique. Et donc, cette faiblesse fondamentale de l'euro relève ici une limite fondamentale en fait de ce projet économique. Et donc je partage ce jugement que tout ce qui visera à promouvoir l'approfondissement d'un marché unique des capitaux sera très largement insuffisant pour établir cette solidité du projet zone euro. Et donc pour établir cette solidité, il faudra développer une vision commune de la politique sociale et de la politique économique européenne pour l'harmoniser justement avec d'autres types d'objectifs tels que les objectifs financiers. Et donc cette absence de cohésion au niveau des définitions des politiques économiques explique cette absence de confiance du marché dans le projet de la zone euro.
On n'en prend pas le chemin, Jonathan Marie.
Non, on évoquait dans cette émission l'absence de multilatéralisme au niveau mondial pour gérer le système monétaire international qui nous fait dépendre de manière beaucoup trop forte du dollar et des velléités américaines. Et finalement, cette critique, on peut la faire aussi au niveau européen. On manque de multilatéralisme. Je partage le constat. On a cette politique monétaire unique, mais on a cette incohérence des politiques budgétaires. Et les seuls mécanismes d'ajustement que l'on adopte au niveau européen sont des mécanismes récessionnistes. L'euro ne peut pas se développer dans ces conditions et la prospérité européenne ne pourra pas être retrouvée.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée et mise en onde par Olivier Roux. Merci à vous deux, Alexis Garati et Jonathan Marie, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur votre smartphone via l'application Pure Radio à l'onglet émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.